Radio Kapi. Oh, Kapi.
Un incendie s'est déclaré dans la nuit de dimanche à ce lundi au marché de Matete ici à Kinshasa. Le feu a été maîtrisé depuis ce matin grâce au concours des services pompiers de la ville. Le bourgmestre de Matete précise que l'incendie a causé quelques dégâts matériels, mais le bilan n'est pas encore disponible en termes des chiffres. Des combats opposent depuis tôt ce lundi l'armée congolaise et ses alliés aux hommes du M23 RDF sur au moins deux lignes de front, notamment dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, et dans la chefferie de Baoundé, territoire de Masisi. Toutes ces zones sont presque entièrement vidées de leurs habitants. Modeste Malecheene est l'invité de ce journal. Il est le conseiller en charge de la programmation, suivi et évaluation du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIRE qui travaille à Kindu dans la province de Maniema. Bonjour à tous. Un incendie s'est déclaré dans la nuit d'hier dimanche à ce lundi au marché de Matete dans la commune du même nom, ici à Kinshasa. Selon Jules Mukumbi, bourgmestre de cette commune, l'incendie a causé quelques dégâts matériels. Le feu a été maîtrisé depuis ce matin grâce au concours des services pompiers de la ville. À l'heure actuelle, une évaluation est en cours pour une estimation de ces dégâts. Écoutons le bourgmestre de Matete qui revient sur les causes et les dégâts de cet incendie. Il a été joint au téléphone par Arcel Kajourou.
Bon, il y avait le centre foyer social, on brûlait les immondices, c'est fait là attaquer les tables du marché et puis c'est directement l'incendie a commencé. Il y a vraiment perte de matériel, hein. Il y avait problème des sacs vides qui étaient là, quelques ballons des usagers. C'est presque un quart, parce que c'est un grand marché. Hein. Bon, jusque là, on n'a pas encore fait l'inventaire. Comme ça plévine, donc après la pluie, peut-être on aura une idée sur des pertes de marchandises. Ça, c'est ce que j'ai remarqué la nuit.
Au nord Kivu, la situation était tendue ce lundi matin à Turunga, territoire de Nyiragongo. À la base, une rumeur faisant état du meurtre par balle hier soir de deux jeunes gens habitants de cette localité du groupement Munigi. Du coup, la population en colère a barricadé la route allant de Goma à Turunga avec des grosses pierres. Aux dernières nouvelles, la route a été réouverte et on apprend que les deux jeunes gens ne sont pas morts. Ils sont blessés et suivent les soins à l'hôpital Sebekan Docho. Zabayo Faustin de la jeunesse de Nyiragongo revient sur la situation. Il a été joint par Chris Mukande.
Des bandits en armes se sont introduits dans le village Turunga, localité Maendeleo, et ils voulaient ravir deux jeunes garçons leur téléphone. Malheureusement, il y a résistance. Et les deux bandits ont tiré sur les deux jeunes garçons, dont l'un est âgé de 16 ans et l'autre est âgé de 17 ans. L'un a reçu des balles dans les jambes et l'autre dans les bassins. Et présentement, ils sont internés à l'hôpital Sebekan Docho. Les deux bandits, après avoir tiré sur les deux personnes, ils ont fui en prenant la direction de Kiziba. C'est ce qui a été à la base des vivitations ce matin et la population en colère a barricadé la route au niveau de Turunga. Heureusement qu'il y a eu implication des autorités locales et présentement la situation est sous contrôle. Et nous continuons à dénoncer l'insécurité qui devient de plus en plus grandissante. Nous demandons vraiment qu'il y ait renforcement des effectifs policiers dans le village Turunga, mais aussi nous demandons au gouverneur des provinces qui est militaire de mettre fin à la circulation sans contrôle des armes, puisque c'est ce qui est à la base de l'insécurité.
Pendant ce temps, dans le territoire de Rutshuru, l'explosion d'une grenade hier dimanche a fait 4 victimes, dont 2 femmes à Lushege, chef-lieu du groupement de Tongo. Un notable de la région indique que la grenade a été dégoupillée par un groupe d'hommes armés non identifiés vers 19h30. Les victimes ont été surprises par ces hommes armés dans une habitation alors qu'elles s'est partagées un verre. D'après la même source, ces personnes ressemblaient à des combattants du M23 qui venaient de faire passage dans le village. Les personnes blessées grièvement ont été transférées à l'hôpital général de Rutshuru. Toujours au nord Kivu, des combats opposent depuis tôt ce lundi l'armée congolaise et ses alliés aux hommes du M23 RDF sur au moins 2 lignes de front. C'est entre autres l'axe Kikuku-Kanyabayonga dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, ainsi qu'autour de la colline stratégique de Ndumba dans la chefferie de Baoundé, territoire de Masisi. Toutes ces zones sont presque entièrement vidées de leurs habitants. Bernard Danyangi.
C'est au petit matin, autour de 5 heures locales ce lundi, que les affrontements ont encore repris avec une forte intensité entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 RDF dans le village Kitereko, Lusuli et Kanongo. C'est non loin du chef-lieu du groupement Mutanda dans la chefferie de Bwito. Selon les sources locales, ceci intervient après des affrontements signalés dans la même zone toute la journée d'hier dimanche. Conséquence, presque tous les villages situés entre Kikuku et Kiala sont vidés de leurs habitants. Toute la matinée, l'armée a poursuivi le pilonnage de Mutanda et ses environs pour, entre autres, tenter d'empêcher l'avancée des rebelles vers Kanyabayonga. Du côté du territoire de Masisi, nos sources parlent d'affrontements qui reprennent ce lundi entre l'armée congolaise et les rebelles autour de la colline stratégique de Ndumba, une colline surplombant le village de Chacha. L'armée aurait l'intention de déloger complètement les rebelles de Chacha et Bitonga, indiquent nos sources. Elles ajoutent aussi que la situation est tendue ce lundi dans les villages de Lumbishi, territoire de Calais, c'est au sud Kivu. Ce village aurait été occupé hier dimanche par les rebelles du 1-23. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Territoire de Beni au nord Kivu à présent. Une psychose est toujours perceptible ce lundi dans les villages des Peteuri, Ilangé, Upende et Sabu sur l'axe routier Mbao-Mantumbi à environ 25 km au nord-ouest de la ville de Beni. C'est après l'attaque meurtrière samedi par des rebelles des ADF ayant fait au moins 10 morts. D'après la société civile du groupement des Batangi Mbao, toutes les activités socio-économiques sont paralysées dans la zone ce lundi, jour prévu pour l'enterrement des victimes. La même source indique qu'un groupe de jeunes s'est rendu dans le village de Sabu pour des fouilles et aurait découvert d'autres corps des victimes de cette attaque. Le porte-parole de l'armée dans la région affirme que les forces conjointes FRDC et UPDF sont à la trousse de l'ennemi. Au Kasaï oriental, le pont jeté sur la rivière Lubi dans le territoire de Kabeya Kamwanga s'est écroulé hier matin au passage d'un gros camion en provenance d'Amika. Ce pont se trouve sur la nationale numéro 1 à près des 50 km de Mujimai. L'office des routes lie cet accident au non-respect de tonnage par les conducteurs de ces engins roulants. Focus sur le pont Lubi avec vous, Esther Ndalafina.
Long de 40 mètres et de 3,50 mètres de largeur, le pont Lubi a été érigé sur la rivière du même nom en 2007 par l'Office des routes. Son directeur provincial affirme que cet ouvrage a une capacité portante de 25 tonnes. Il déplore cependant que ce pont subit le dépassement de la capacité de sa charge maximale. L'accident de ce dimanche en est la preuve. L'Office des routes reconnaît toutefois que le pont était en bon état avant l'incident qui s'est produit, car chaque année, il est entretenu et resserré pour faciliter la circulation des personnes et des engins roulants. Le trafic routier est brusquement interrompu depuis dimanche dernier. La réhabilitation rapide s'impose car ce pont relie la ville de Mbujimayi au Kasaï oriental, à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, ainsi que d'autres provinces, dont notamment le Kasaï, le Kwilu et la ville-province de Kinshasa. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
À Kinshasa, parlons de la situation du taux d'échange sur le marché. Ce qui est sûr, c'est que le franc congolais continue de perdre sa valeur face au dollar américain notamment. Quant au taux d'échange, cela dépend de l'endroit où l'on se retrouve. Il est plus haut au centre-ville, un peu plus bas à la cité, mais ici, cela dépend aussi d'un changeur à un autre. Également parfois du billet que l'on a en main. Et ce taux non stable impacte négativement la vie de la population. Reportage Alphan Poissa et Babel Pongo.
Nous sommes à Binzaozon, dans la commune de Ngaliema. Paul, Mathieu et Jean sont des cambistes, près de 15 mètres les séparent.
Je fais à 2800, juste.
Je change les billets de 10 dollars à 27 800 francs congolais. Celui de 100 dollars à 28 000 francs. L'achat du dollar est à 29 000 francs.
J'ai le cas à 27 500. Les autres réclament même 28. Mais on ne peut pas donner à 28 parce que nous aussi, on prend à 28.
C'est au centre-ville que le taux est plus haut. Dieudonné, il y a un bureau d'échange, il explique.
Ici, c'est 28 200 pour 10 dollars. La banque a moins que ça, la banque peut avoir 27 500. Si vous mettez 27 500, personne ne viendra parce que tout le monde a 28 200. Nos principaux fournisseurs sont les banques commerciales. Et nous nous approvisionnons en francs congolais auprès des opérateurs économiques qui nous donnent les taux un peu plus hauts que celui qui est fixé sur le tableau. Donc si par exemple on a eu le franc congolais à 283 000 et que nous nous échangeons à 282 000, du coup on a 1000 francs de bénéfices.
Ces taux instables et toujours à la hausse a un impact sur presque tous les secteurs. Mamie, vendeuse de friperies, sont pleines.
Surtout, achète des marchandises en dollars, mais je vends en francs congolais. Or, le taux n'est pas fixe. Donc, de fois, je n'ai pas de bénéfice. Même le capital est englouti à cause du taux instable du dollar.
Pour Lemska Mwania, économiste, le retard mis dans la publication du gouvernement n'aide pas non plus à protéger la monnaie nationale.
Dans le social, notez que les écoles du territoire de Kibombo, dans la province éducationnelle Maniema 2, réalisent 3 années successives sans avoir les bulletins scolaires de fin d'année. L'information livrée par la société civile locale est confirmée par le directeur de la province éducationnelle Maniema 2. Parmi les causes, l'arrivée en retard et le nombre insuffisant des bulletins que reçoivent les chefs d'établissement par rapport à l'effectif des élèves. Florence Kizalunga.
Selon François Tamboué, président de la société civile Force Vive du Maniema, antenne de Kibombo, cette situation a des conséquences graves pour le suivi des élèves.
Ça fait aujourd'hui plus de 3 années successives où les enfants, lors de la proclamation, ils ne reçoivent pas les bulletins. Alors, on se demande pourquoi les autorités font payer l'argent de bulletins chaque année, mais le bulletin, à la fin de l'année, les enfants ne reçoivent pas les bulletins. Si le gouvernement n'est pas prêt à octroyer les bulletins aux enfants, pourquoi il reçoit chaque année les frais de bulletin, 1000 francs pour chaque élève, au nombre de tous les enfants qui sont ici au secondaire?
François Tamboué ajoute que cette situation constitue des fraudes dans le parcours des élèves.
Vous savez, manquer le bulletin 3 années, c'est plonger même les enfants dans une génocide intellectuelle, puisque ça favorise alors de fraude massive aux enfants qui, dans une école, il a échoué, il quitte cette école pour aller ailleurs. On demande rien puisqu'il n'y a pas l'octroi de bulletins.
Contacte les directeurs de la province éducationnelle Maniema 2, confirme cette information. Clément Mukanya promet de décanter la situation. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Au Congo central, baisse sensible des cas de décès dus à la malnutrition depuis plusieurs mois dans la prison de Matadi, communément appelée Kamolaï. À en croire le directeur de cette maison carcérale, cette situation est consécutive à l'amélioration de la prise en charge alimentaire des prisonniers depuis qu'il est à la tête de cette prison. L'ONG Fraternité des prisons, qui mène une mission de monitoring sur les conditions des détentions, confirme cette baisse de cas de décès dans la prison centrale de Matadi. Pasteur Néhémie Nkoussou appelle les autorités à tout mettre en œuvre pour améliorer aussi les conditions d'hébergement dans la prison de Matadi. Nana Plus Riche Mambou.
Selon Joseph Bikoko, directeur de la prison centrale de Matadi, c'est grâce notamment à la bouillie sur base du maïs et du soja que la prison donne aux détenus présentant des soucis de santé et à l'induction de légumes variés dans leur alimentation que les détenus ne meurent plus de la malnutrition. Cette baisse des cas de décès qui s'observe depuis plus d'une année est confirmée par l'ONGDH Fraternité des Prisons. Néhémie Nkoussou est son coordonnateur provincial au Congo central.
Nous avons remarqué par notre travail de routine au quotidien et aussi par le monitoring que les cas de décès dus à la malnutrition ont été sensiblement réduits dans cette prison. Et aussi les produits pharmaceutiques que prennent les tuberculeux, ils sont ravitaillés de temps en temps. Mais ce que nous pouvons recommander au gouvernement, c'est de continuer à renforcer cette alimentation et ces conditions pour que réellement nos détenus puissent continuer à jouir d'une bonne santé.
Cependant, Joseph Bikoko révèle que 20 détenus sont malheureusement décédés suite notamment aux mauvaises conditions d'hébergement. C'est pourquoi il plaide pour l'amélioration de la desserte en eau potable et de l'électricité dans la prison, ainsi que la dotation des matelas et autres biens nécessaires au profit des pensionnaires. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le gouvernement kényan a dressé le bilan des inondations dévastatrices de ces derniers mois. C'est près de 300 personnes qui ont perdu la vie et plus de 200 000 qui ont été déplacées depuis le mois de mars en raison de crues soudaines provoquées par les fortes pluies actuelles. Les Palestiniens accusent Israël d'un massacre après des frappes contre des déplacés à Rafah. Selon les autorités du Hamas, au moins 35 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lors du bombardement par Israël d'un centre pour personnes déplacées près de Rafah, ville du sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne a affirmé pour sa part qu'un de ses avions avait frappé un complexe du Hamas à Rafah dans lequel opéraient d'importants terroristes.
L'invité.
Modeste Malechene est l'invité de ce journal. Il est le conseiller en charge de la programmation suivi et évaluation du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR. Il nous parle de 18 stations d'alevinage installées dans la ville de Kindu et dans les territoires de Kailo et Pangi. Ces stations ont reçu des semences, des claria et des tilapia. Modeste Malechene s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Modeste Malechene, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Modeste, vous venez d'une, je dirais, une visite de suivi. Après avoir visité ces stations dans le village, vous avez quelques instants.
Oui, je suis venu en visite pour voir les effets des alevins que nous avions envoyés ici au profit des stations d'alevinage. Et après la tournée, j'ai constaté que tout ce que nous avons envoyé est tombé entre de bonnes mains et c'est en train de résoudre un grand problème d'accès aux poissons dans la ville de Kindu. Et nous espérons que ceci n'est qu'un début, donc que prochainement, nous allons trouver que le travail a encore été fait de manière beaucoup plus agréable. Mais sinon, je suis tout à fait satisfait des résultats que j'ai vus sur le terrain.
Qu'est-ce que PADRIR vise en donnant aux pisciculteurs les alevins?
Oui, le PADRIR vise en premier lieu de mettre en place des stations d'alevinage parce que nous voulons développer la filière halieutique à travers la pisciculture. C'est pourquoi nous voulons que dans un premier temps, qu'il y ait des stations d'alevinage où les ménages piscicoles auront la facilité de trouver des alevins pour leurs étangs. Et en second lieu, c'est d'accroître la production. Parce que vous savez que Kindu, c'est une ville qui est le long du fleuve. Les gens pêchent certes, mais actuellement, la pêche que l'on exerce, c'est une pêche artisanale, mais qui ne produit plus les effets escomptés. C'est pourquoi nous voulons accroître la production des poissons par la pisciculture.
Nous sommes à la saison sèche. Il y a dans certains étangs où il n'y a plus d'eau et les pisciculteurs sont obligés de déplacer les poissons. Quelles mesures que PADRIR envisage pour que vous ne puissiez pas perdre ce que vous avez investi dans ces pisciculteurs?
Oui, je crois deux mesures. La première mesure, c'est la sécurisation foncière. Parce que là où les pisciculteurs sont en train de travailler, c'est les espaces publics. Mais il arrive de fois que certaines personnes s'en accaparent à titre privé et ils chassent les pisciculteurs. C'est pourquoi nous lançons un vibrant appel aux autorités politico-administratives de pouvoir sécuriser les sites où nous investissons quand même des moyens pour que la population puisse avoir accès aux poissons. Et la deuxième mesure, c'est notre partenariat avec le Service national de développement de la pêche et de l'élevage, qu'on appelle SENADEPA, pour apporter des formations, pour un renforcement des capacités des bénéficiaires sur différentes techniques parce qu'en ce moment ici c'est vrai il y a une carence en eau mais nous en appelons à notre partenaire SENADEPA pour accroître des formations et permettre à la population d'avoir de diverses méthodes, de diverses techniques pour gérer les étangs, pour gérer les eaux dans les étangs.
Partout où vous êtes passé, les bénéficiaires ont demandé encore plus d'appui en termes de matériel, en termes d'équipement. Qu'en pensez-vous?
Oui, c'est vrai, ils ont raison. C'est vrai que même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Nous avons prévu de construire ici à Kindu une écloserie, ce qui va résoudre deux problèmes. On va résoudre le problème d'accès aux alevins et on va résoudre le problème d'aliments. Parce que c'est une écloserie qui est associée à une provendrie. Donc ça, c'est déjà un acquis. L'autre acquis, c'est que nous espérons l'année prochaine appuyer encore d'autres pisciculteurs en matériel. Non seulement en matériel, parce que les matériels seuls ne suffisent pas, mais ils seront aussi appuyés en formation pour accroître leurs connaissances.
Pendant qu'ils ont des semences qui sont en train d'élever et qui se posent encore un problème d'alimentation, votre projet n'inclut pas cet appui pour accompagner vos partenaires?
Oui, cet appui est compris dans le paquet que nous apportons. D'abord, nous apportons des aliments importés. Nous achetons à Kinshasa, nous envoyons ici. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un circuit qui n'est pas durable. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons pour une fabrication locale des aliments. Et là, une fois de plus, j'en appelle au service de l'État qui est attitré, le SENADEPA, d'accroître des formations. Je sais qu'ils ont déjà commencé, mais ils vont accroître des formations pour que nous soyons à mesure d'avoir une industrie locale de production d'aliments ici à Kindu. PADRIR seul ne peut pas avec le fonds du FIDA, mais nous savons que avec l'appui de tous, nous pouvons atteindre l'autosuffisance. suffisance alimentaire.
Merci, Modeste, merci.
Merci beaucoup, madame.
Et c'est la fin de ce journal, la grande édition de la mi-journée sur Radio Okapi, un journal mis en onde par Polydor Basunga, préparé par Élisée Chikota Chivueta et présenté par Noëlla Luzitu Kabambi. Place à présent au journal des sports.